Bonsoir mes frères et sœurs. Quelle grâce de se retrouver sous le regard du Seigneur. J'ai à cœur de partager avec vous un sujet qui m'a beaucoup interpellé dans les années passées, il y a 20 ans en arrière. Et il arrive très souvent que beaucoup de chrétiens soient dans l'interrogation. Et on m'a souvent posé la question, même une fois en pleine prédication, une sœur m'a interpellé et a dit « Mais d'où vient l'adversité ?» Eh bien c'est le titre de ma prédication de ce soir. « D'où vient l'adversité. » Alors on va faire plusieurs lectures et je vous encourage vraiment à prendre des notes. C'est pas parce que c'est moi qui prêche, mais parce que ces textes vous aideront. On ne peut pas méditer, mémoriser, réfléchir si on ne note pas ces textes. Je vous assure, moi je le ferai, je vous assure, notez les textes. C'est vrai que c'est enregistré, mais ça fait rien, qui peut le plus, peut le moins. Et vous pouvez bénéficier de l'enregistrement bientôt, mais notez ces textes, lisez-les et vous verrez combien le Saint-Esprit vous aidera à affronter l'adversité. Parce que c'est une chose de le chanter à gorge déployée, laissez-moi vous dire, ça n'est une autre de le vivre lorsqu'on le traverse. Alors la première lecture pour expliquer une généralité sur l'adversité, c'est dans Ésaïe au chapitre 45. On va faire plusieurs lectures, on terminera par un cantique que l'on chantera de tout cœur pour combattre notre adversité. Ésaïe chapitre 45, verset 5. Voilà, j'encourage les stagiaires à apprendre des textes par cœur, mais ça fait partie de ces textes que le Saint-Esprit peut réutiliser pour vous rassurer lorsque vous traversez un moment difficile. Ésaïe 45, versets 5 à 8. À 7, pardon. « Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache... du soleil levant au soleil couchant, qu'à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Je relis, je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Vous le croyez, frère? Vous l'aviez déjà lu, ce texte? Vous l'aviez lu? C'est une vérité, c'est Dieu qui parle. L'autre jour, je vous parlais que je lisais dans le cantique de Anne, après qu'elle ait fait cette expérience, on pourrait le relire, juste quelques versets. On va lire des versets, et je vous demande vraiment de noter ces textes. Je suis persuadé que nous ne retenons pas grand-chose des prédications, mais quand nous notons, ça développe cette faculté. Regardez dans 1 Samuel, au chapitre 2, cette femme, elle vient de faire une expérience. Elle est restée longtemps dans la présence de Dieu. On le voit, 1 Samuel, chapitre 1, verset 12. Elle reste longtemps en prière devant l'Éternel. On ne lui a pas dit, il faut prier longtemps. Elle a eu besoin de rester longtemps. À quoi ça sert de rester longtemps? Pour rester longtemps, c'est de la religiosité. Elle avait besoin, elle est restée longtemps et Dieu a vu son cœur. Et cette femme a été tellement bouleversée, son visage ne fut plus le même. Et elle a composé un cantique. Regardez le verset 6 au chapitre 2. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Vous le croyez ça? C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui la reprend. Vous savez, notre vie, elle est à Dieu. Il donne la vie, il la reprend. Il fait descendre au séjour des morts, il fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. L'indigent, c'est vraiment celui qui n'a rien. Etc. Donc nous voyons que Dieu donne, Dieu reprend. Alors c'est vrai, c'est une question, mais l'adversité. Alors on va partir d'un texte. Bon, ça c'était une petite introduction pour vous expliquer que Dieu peut permettre la prospérité ainsi que l'adversité. On va partir d'une situation qui est présentée dans l'évangile de Jean au chapitre 9. Vous avez certainement vu et été arrêté par la question des disciples à Jésus lorsqu'ils ont rencontré un homme qui était aveugle de naissance. On connaît bien le parcours, mais l'introduction est une introduction qui est doctrinale, théologique même. Jean chapitre 9, verset 1. Et c'est extraordinaire que Dieu ait voulu que cela soit écrit dans la Bible. Une question qui va nous permettre d'avancer dans ce sujet. Jean chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» voyez, pour eux, on leur avait enseigné que toute leur vie, que la maladie, ça venait de quoi? Du péché. C'est un jugement de Dieu. Ça venait, pour eux, il n'y avait même pas de question, de problème. Quelqu'un avait péché. Alors on en arrive, vous voyez, à dire des inepties. Est-ce que cet enfant pouvait pécher dans le sein de sa mère? Voyez où on peut en arriver. Regardez bien la réponse. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, et je peux vous dire que vous pouvez dire Amen. Ils avaient reçu un enseignement tout le long de leur vie. Et eux, pour eux, c'était évident, la maladie était le résultat du péché, était un jugement de Dieu. Il n'y avait aucun doute. Et c'est vrai que lorsqu'on est confronté à l'adversité, on est tout le temps en train de se poser des questions. Et pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? Est-ce que vous avez déjà dit au Seigneur pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi mon fils a-t-il fugué? Il y a des parents qui ont éduqué leurs enfants d'une façon extraordinaire et paf, un jour le fils a fugué. Est-ce que ça peut arriver ça? Oui ou non? Ben oui! Pourquoi mon fils? Moi j'ai vu des parents, moi, effondrés parce que leur enfant, leur adolescent avait eu un comportement contraire à tout ce qu'ils avaient pu apprendre comme éducation. Pourquoi ma mère a-t-elle eu le cancer? Pourquoi ma mère, qui est chrétienne, depuis 30 ans engagée, elle est là en train de mourir d'un cancer? Mais pourquoi ma mère a-t-elle eu le cancer, cette femme pieuse? Pourquoi ma maison a pris feu? Est-ce que c'est arrivé, ça, que des choses bizarres se soient passées dans des maisons de chrétiens? Soyez honnêtes, est-ce que c'est déjà arrivé? Ben oui, c'est déjà arrivé. Pourquoi ai-je perdu mon emploi? Ça, c'est une question. Je ne comprends pas. Je suis droit, je suis intègre. On m'a mis dehors, on m'a licencié. Je ne comprends pas. Pourquoi m'a-t-on intenté un procès? Il y a des chrétiens à qui on a intenté des procès. Etc. La liste, elle est infinie. Pourquoi ai-je traversé cette injustice? Parce qu'on peut être droit et traverser des injustices. La liste, elle est infinie. On pourrait passer la soirée, chacun pourrait faire une liste de 4 ou 5 questions. Ça prendrait toute la soirée le nombre de questions que nous pouvons nous poser. Alors, il y a les questions et il y a tout ce qui se rajoute aux questions que l'on pose. Parce que quand on pose des questions, ça peut générer de la frustration, du découragement. Nous avons entendu un don spirituel tout à l'heure qui exhortait quelqu'un à ne pas se décourager. Vous allez comprendre un peu ce que je veux dire. Il y a la culpabilité, il y a la vraie culpabilité. Est-ce qu'il y a la vraie culpabilité? Est-ce qu'elle existe? Est-ce que c'est bien la vraie culpabilité? La vraie culpabilité. J'ai menti, je me sens coupable, est-ce que c'est bien? Eh bien oui, la vraie culpabilité c'est une bénédiction. Mais la fausse culpabilité c'est terrible. La fausse culpabilité, le diable se frotte les mains parce qu'il y a des gens qui vivent continuellement dans une fausse culpabilité. C'est le résultat souvent de cette adversité qui n'est pas comprise, qui n'est pas acceptée. Le doute, la tristesse, le murmure, le découragement, toutes ces émotions, tous ces sentiments qui font que parfois il y a des églises entières qui sont dans le désert comme un troupeau de brebis chétives qui sont là, desséchées. Et ça ne donne pas trop envie d'aller rejoindre le troupeau, hein. Vous rejoindrez-vous un troupeau de 100 brebis, toutes chétives, toutes blessées, toutes crasseuses, toutes malades? Rejoignez-nous. Merci. Franchement, vous rejoindrez. Mais il y a des églises, quand vous voyez, sérieusement. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de santé spirituelle, un problème de compréhension. Alors après, les chrétiens sont là, tout le temps en train de remettre. Alors ils prient ça le dimanche matin, ils louent le dimanche matin, ça c'est bien parce qu'on leur a pris comme ça. Mais après tout le temps en train de remettre en question la bonté, la fidélité, c'est lancinant et ça revient. Moi c'est un sujet qui m'a obsédé pendant des années, parce que j'ai traversé l'adversité. Et il y a bien des choses que je n'ai pas comprises et ça m'a permis de développer ce sujet. Je pensais hier en préparant cette étude à la veuve de Sarepta. Regardez ce texte, peut-être que vous n'y avez jamais fait attention. Moi je m'y suis arrêté parce que c'est des textes qui m'ont fait réfléchir. Regardez dans 1 Roi au chapitre 17. Regardez cette femme. Alors, on ne sait rien, en fin de compte. Mais c'est écrit. 1 Roi, chapitre 17. C'est la veuve de Sarepta. Elle a fait une expérience extraordinaire. Regardez. C'est juste pour vous expliquer comment, des fois, dans le cœur, il peut se passer certaines choses. 1 Roi 17, verset 17. Après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus de respiration en lui. Cette femme dit alors à Élie, Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité? Voyez, es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité? Cette femme, dans sa tête, dans son cœur, il y avait un souvenir de quelque chose qui avait été pas bien, et elle croit, elle dit, voilà, mon fils est mort, et c'est peut-être à cause de ça, mon fils il est mort, et toi tu viens me rappeler ce mauvais souvenir. On ne sait rien, on ne sait que ça. Mais ça nous prouve qu'il s'en passe des choses lorsqu'on est dans l'adversité, mes frères et sœurs. Alors, dans Jean au chapitre 9, on voit la réponse de Jésus, qui est extraordinaire en fin de compte, parce qu'elle démolit toute la théologie des disciples qu'ils avaient reçus, et en même temps, il y a un espoir extraordinaire. Alors, vous avez vu ce que Jésus répond? Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Vous avez comme ça dans ma Bible, dans votre Bible? Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Ils avaient besoin d'apprendre. Et vous savez, mes frères et sœurs, je ne sais pas où vous en êtes avec Dieu. Même si vous marchez avec Dieu depuis 20 ans, est-ce que vous n'avez pas des choses à apprendre, même au bout de 20 ans? Moi, je vous assure, il y a des chrétiens, ils sont chrétiens depuis 20 ans, 30 ans, ils sont pauvres, légers, parce qu'ils ne prennent pas le temps d'étudier comme on le fait ce soir. De noter, de dire, il faut que je réfléchisse. L'ignorance, ça détruit l'œuvre de Dieu. Et Paul dit aux Thessaloniciens, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. C'était au sujet de ceux qui étaient décédés, parce qu'ils se demandaient qu'est-ce qui se passait pour ceux qui étaient morts, est-ce qu'ils allaient, où ils étaient, etc., comment ça se passerait pour eux. Et Paul dit, mais je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Là, c'est dit pour les morts, mais c'est dit, on peut le dire, est-ce qu'on peut le dire pour toute la doctrine biblique? Mais bien sûr, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. L'ignorance, non seulement, elle amène de la fausse doctrine, elle amène un déséquilibre chez certains chrétiens, certains deviennent légalistes, certains deviennent libéraux, ça fait qu'on a des églises d'une légèreté parce que Dieu est amour et bon, il y a d'autres églises, c'est d'une sévérité pas possible, il n'y a qu'un légalisme, ça fait que les gens de l'extérieur, ils n'ont pas envie de nous rejoindre, tout simplement parce qu'on est dans l'ignorance. En plus, c'est une mauvaise idée de la souffrance, parce que la souffrance, c'est pas évident la souffrance. Vous avez déjà souffert ? Je ne parle pas physiquement, vous êtes cassé une jambe. On le dit des fois, il vaudrait mieux qu'il se soit cassé une jambe. Vous l'avez jamais entendu ça? Vous l'avez jamais... On le dit souvent. Même nous, on a eu dit, oh, j'aurais préféré me casser une jambe. Mais c'est vrai. Parce que c'est rien du tout se casser une jambe. Quand c'est cassé là-dedans, la réparation, c'est un peu plus compliqué. Et ça vient souvent de notre négligence. C'est pour ça qu'on fait bien de se retrouver sous le regard de Dieu et comprendre. Voyez ? Jésus n'a pas dit oui, c'est le péché. Il aurait pu dire oui, quelqu'un a péché dans cette histoire, quelqu'un a péché, mais ça va quand même servir à la gloire de Dieu. Oui ou non? Non. Il dit c'est afin, donc c'est pas la conséquence du péché, ça a un but. Mes frères et sœurs, si on ne comprend pas ça, on va s'emmêler toute notre vie. La souffrance, ça a toujours un but, si on obéit. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la bénédiction que ça représente. Ce n'est pas le résultat d'un péché. Ça a pour résultat la gloire de Dieu. Vous n'avez pas envie que ce que vous vivez, ça serve à la gloire du Seigneur? Quoi que ce soit que vous viviez, il y a un plan. Et vous savez, il faut réfléchir aux paroles du Seigneur. Quand moi je vois des gens qui disent « Ouais, mais la Bible, je l'ai lu, l'évangile de Jean, ben, je le connais par cœur. » Chapeau, hein. Moi, je crois que la Bible, on ne la connaîtra jamais. Et que plus on la connaîtra, c'est exactement comme un puits sans fin. Plus vous connaissez, plus vous vous rendez compte que vous ne connaissez absolument rien. Donc, Jésus, donc, ce n'est pas le résultat du péché. Ça, un but, ça fait partie du plan de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous êtes d'accord avec moi? Jésus dit, ça fait partie du plan de Dieu. Ça vient de Dieu. Oui ou non? Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Eh oui, il faut être d'accord. Oui, Jésus, parce que ça aurait été facile de dire, oui, cet homme est né péché, cet homme est né aveugle, parce que ses parents ont péché, mais voilà, Dieu néanmoins va se servir de lui, ça aurait collé avec la doctrine. Mais là, Jésus dit bien, non, c'est afin que Dieu manifeste sa gloire. La seule raison... C'était la volonté de Dieu qui allait servir à la gloire de Dieu. Il faut le comprendre, ça, que Dieu puisse être l'auteur de l'adversité. C'est pas compris dans toutes les églises. Pour beaucoup de gens, l'adversité, elle ne vient que de l'adversaire. On va le voir, que certaines adversités viennent vraiment de l'adversaire. Mais Dieu peut permettre l'adversité. Regardez dans 2 Corinthiens au chapitre 12. Vous connaissez très bien ce texte. Alors ça, c'est un texte, moi j'ai lu plein de commentaires là-dessus. Les théologiens, ils y vont de leur connaissance. 2 Corinthiens chapitre 12, Paul exprime quelque chose qu'il est en train de traverser. Alors, lisons-le. Vous allez me dire d'où ça vient. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. 7 à 9. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si vous lisez le contexte, il devait se poser des questions sur la doctrine. Et il a été ravi au troisième ciel pour en parler directement avec Dieu. C'est pas une belle expérience, ça? C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la faveur que Dieu fait à Paul. Il voulait savoir, mais il a su tellement que Dieu l'a pris avec lui quelque temps au paradis. Alors, bien sûr, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Voilà Dieu qui permet cette épreuve. Alors quelqu'un dira, oui, mais d'accord, mais c'est quand même un ange de Satan qui va le souffleter. Oui ou non? Comment vous l'interprétez ça? Alors quelle était la raison de l'adversité? Parce qu'il faut, pourquoi il y avait telle adversité? C'était pour quoi faire? Pour l'empêcher de s'enorgueillir. Alors pensez-vous, franchement, soyons intelligents, pensez-vous que Satan puisse être l'auteur d'un plan dont le but serait d'empêcher Paul de s'enorgueillir? Vous ne croyez pas plutôt que c'est l'inverse? Vous ne croyez pas que si le diable avait pu faire en sorte que Paul s'enorgueillisse, vous ne croyez pas qu'il aurait poussé la roue? Mais bien sûr, le but du diable c'est ça, de nous rendre orgueilleux. Satan il fera tout pour provoquer l'orgueil dans notre vie, en plus que quand on est orgueilleux, Dieu ne peut rien faire. Dieu résiste aux orgueilleux. Il a utilisé Jonas. Bon, Jonas, ce n'était pas le pasteur top. Quoique, il fallait quand même le faire ce qu'il a fait. Abraham, il a commis un demi-mensonge, mais il s'est rattrapé. Dieu l'a utilisé. David, il a commis l'adultère. Il a payé très, 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 très cher. Mais Dieu l'a utilisé. Mais les orgueilleux, Dieu ne fait qu'une chose avec les orgueilleux. Il leur résiste. Donc, vous comprenez bien que Satan aurait bien aimé que l'apôtre Paul s'enorgueillisse. Alors, comment concilier tout ça? Parce qu'il y a des gens qui... Moi, on me dit tellement de choses. Parce que les gens ne lisent pas la parole de Dieu. Alors, oui, Dieu a permis que Paul souffre pour le garder dans l'humilité. Toute sa vie. Il a souffert d'une écharde. Tous les hommes de Dieu du monde pensent que c'est par rapport à ses yeux. Quand il écrivait, souvent il faisait écrire ses lettres parce qu'il devait... Il devait avoir un problème de vue. C'était une écharde, ça devait être terrible pour lui. Et Dieu lui a dit, écoute, ma grâce te suffit. Cette écharde, voilà, c'était le plan de Dieu. Vous le voyez comme moi? Dieu l'a permis. Est-ce que Dieu aurait pu le guérir? Ben oui, Dieu aurait pu le guérir. Il a dit, non, tu resteras malade. Tu garderas cette écharde toute ta vie. Alors il y a des choses comme ça qu'on ne comprend pas, l'adversité qui vient de Dieu. Regardez avec moi dans 2 Chroniques. Alors, c'est les textes, il y en a des centaines. Vous avez entendu? Pas une dizaine, il y en a des centaines. J'en ai pris trois qui me sont venus à l'esprit, parce que ce sont des textes qui m'ont arrêté quand même. Regardez dans 2 Chroniques. Je ne sais pas si ce sont des textes que vous lisez régulièrement. Je sais qu'il y a des livres que les chrétiens ne lisent pas parce qu'ils sont difficiles. Mais ça vaut quand même la peine de les lire. 2 Chroniques, chapitre 15. C'est des versets, moi, qui m'ont arrêté. Regardez, 2 Chroniques, chapitre 15, verset 6. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville. Comment vous avez écrit dans votre Bible la suite? Parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous l'aviez déjà lu ce verset? Vous aviez déjà fait attention à ce verset? Répondez-moi. Moi, c'est des versets que ils me reviennent à l'esprit ça me garde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, si vous lisez, alors écoutez, le mieux, faites-le. Mais s'il vous plaît, faites-le. Lisez le livre des juges. Lisez-le vraiment. Vous le lisez, mais vous le méditez. Et vous verrez ce que Dieu est capable de provoquer pour ramener son peuple à lui. Alors, c'est vrai que Dieu... Regardez, Juges chapitre 3. On pourrait passer la soirée entière à prendre que des textes comme celui que je viens de vous citer. On a pris l'aveugle-né, l'apôtre Paul. On vient de voir ce texte dans les chroniques, dans les juges. Il y a au moins une cinquantaine de textes. Juges chapitre 3. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver. Oui, l'éprouver. Il aurait pu permettre que Josué détruise toutes les nations païennes. Mais Dieu a laissé des nations pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Verset 4. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit par leur père à Moïse. Verset 8. Mais vous le ferez? Vous le lirez? Vous le lirez le livre des juges? Vous l'avez déjà lu, le livre des juges? Vous le relirez à la lumière de ce que je vous dis. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Juges 3, verset 8. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et il les vendit entre les mains de Cusham Rishéataïm, roi de Mésopotamie. Les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cusham Rishéataïm. Verset 12. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel, tenez-vous bien, c'est l'ennemi, fortifia Eglon. Vous avez lu comme moi? Dieu est en train de fortifier les ennemis d'Israël. Et l'Éternel fortifia Eglon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Chapitre 6. Non mais, franchement, mes frères et sœurs, l'adversité, c'est un sujet compliqué. Juges chapitre 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Mais vous le lirez, ce livre. Mais lisez-le à la lumière de ce que je suis en train de vous enseigner ce soir, et vous allez voir comment Dieu, dans sa souveraineté, peut permettre l'adversité dans notre vie. Alors je vous dis, j'ai pris ces 3 textes parce qu'ils me sont venus à l'esprit, mais de suite, parce que j'en connais des centaines, et j'aimerais bien que ces textes ne soient pas dans la Bible. Oui, l'adversité peut venir de Dieu. Deuxièmement, l'adversité peut venir de notre propre côté à nous, c'est-à-dire à cause de notre péché. Nous sommes nous-mêmes à l'origine de l'adversité. Il n'y a pas que Dieu qui peut être à l'origine de l'adversité, ou l'adversaire, c'est évident, comme on va le voir pour terminer. Nous, nous pouvons être à l'origine de notre adversité. Voilà, le péché. Est-ce que c'est écrit dans la Bible que le péché a pour conséquence de l'adversité? On lit Jacques chapitre 1er. Vous savez, ce sont mes frères et sœurs, je vous le dis, parce que moi je suis peiné quand je vois des chrétiens qui ont 20 ans de conversion, qui sont incapables de comprendre cette chose qui est quand même simple. Parce qu'ils ne sont pas sérieux. Je ne sais pas si vous êtes sérieux. On parlait tout à l'heure avec Nicolas qu'il y a des églises, plus personne ne vient avec la Bible. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pourquoi? Parce que tout est affiché sur vidéoprojecteur et les gens ne viennent plus avec leur Bible. Et je peux vous assurer que ça fait l'œuvre de quelqu'un, ça fait l'affaire de quelqu'un. On doit amener sa Bible, prendre des notes. Moi, je ne vous le dis pas parce que c'est moi qui prêche et qu'il faut que vous preniez les notes de M. Gault. Ce n'est pas les notes de M. Gault que je vous demande de prendre. C'est la parole de Dieu. Et de les apprendre, et le Saint-Esprit vous le rappellera. Regardez dans Jacques. Jacques chapitre 1er, verset 13. Au verset 12. Regardez le verset 12, ce qui est dit. C'est quand même... Moi, ce verset, il m'a arrêté longtemps. Hein, quand je vous dis qu'il m'a arrêté longtemps... Heureux l'homme, vous lisez comme moi, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé. Donc la tentation, c'est une épreuve. Attention, la tentation, ce n'est pas un péché. Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Il y a des gens, vous voyez, qui sont là, ils sont complètement paumés, excusez-moi l'expression. Parce qu'ils n'ont pas compris encore au bout de 10 ans de conversion que la tentation, ce n'était pas un péché. Si Dieu dit « Heureux l'homme qui supporte la tentation », vous comprenez bien que la tentation, ça ne pourrait pas être un péché. Jésus dirait jamais « Heureux l'homme qui supporte le péché ». La tentation, ce n'est pas un péché, mes frères et sœurs. Regardez bien la suite. Verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Donc vous avez vu tous les verbes qui sont utilisés pour expliquer qu'on passe de la tentation à l'attirance. Eh oui, vous regardez quelque chose, il y a une affiche, une photo, je ne sais pas, quelque chose qui vous suggère une attirance. Il y a la tentation. La tentation, je le répète, ce n'est pas un péché. Mais après, il y a l'attirance. Puis après, l'amorçage. Vous savez, Dieu utilise l'image des pêcheurs. Vous savez, un poisson, il se promène, et puis il voit un asticot là-bas, à 15 mètres. Tiens, il y a à manger. Il est tenté. C'est pas l'image de la... c'est l'image que Dieu utilise. Il est tenté, il voit un asticot, un ver de terre, et donc lui se dit, voilà, j'ai mon goûter. Et il s'approche, et il devrait voir, enfin, bien sûr, le poisson c'est autre chose, nous quand même on est au niveau dessus, on devrait voir qu'avec le petit asticot, il y a un crochet. Il est attiré, mais quand même, quelqu'un d'intelligent, il devrait comprendre qu'il y a un problème. La tentation, l'attirance, l'amorce, puis la convoitise. La convoitise, elle vient après tout ça. La convoitise, c'est vraiment, j'ai commencé à céder. C'est pour ça que quand Jésus dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter. Il a déjà commis avec elle l'adultère. Il n'est pas dit quiconque est tenté en regardant une femme. Ça peut arriver qu'une la vue de quelqu'un, de quelque chose, produise une tentation. Ce n'est pas un péché. En plus, on est continuellement agressé. Bon, stop, stop. Mais là, Jésus dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter, c'est-à-dire qu'il ne va pas en rester à la tentation ni à l'attirance, il va vouloir arriver à ses fins. Et il a déjà commis l'adultère. Vous comprenez? Mais la tentation, c'est pas... Moi, je me souviens un jour d'un frère qui me disait, « Monsieur Gros, je suis un... » Il était furieux, complètement déséquilibré, déstabilisé. Il en devenait inquiétant même. Il vient me voir, « Il faut que je vous parle. Ma femme, elle est partie faire les courses. Vite, venez, il faut que je vous parle. Voilà, j'ai trompé ma femme. » Ah bon, moi, j'étais catastrophé. Et il me dit, « Mais comment ça? Ben oui, j'ai trompé ma femme. Vous avez vu ce que dit la Bible ?» Il avait 20 ans de conversion. Il dit, comment vous avez trompé? Oui, la Bible dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter, oh, moi ça m'arrive des fois, je vois des femmes et j'ai plein d'idées qui me viennent à l'esprit. Mais j'ai dit, mais vous n'avez pas couché avec? Mais non, monsieur, vous ne vous rendez pas compte. Mais lui, il avait interprété la tentation comme la convoitise. Vous me suivez? Mais c'est important parce que l'adversité, on n'arrivera pas à s'en sortir. Si on ne comprend pas les textes, et je vous ai souvent dit, mais prenez un dictionnaire et regardez la signification des mots. La tentation n'est pas un péché. Jésus a été tenté comme nous en toutes choses. C'est écrit où ça, les stagiaires? Oui, non, mais ça ne suffit pas, Jonathan. Hébreu combien? Non, 4. Hébreu 4. Bon, le verset, je vous le passe. Et voilà, mes frères et soeurs. Mais c'est sérieux. Moi, ça me fait mal au cœur quand je vois des chrétiens qui n'arrivent pas à gérer les épreuves, alors que Dieu nous a tout indiqué. Mes frères et sœurs, c'est sérieux. À tous les cas, une chose est sûre, c'est que le péché, si on le laisse faire, il va détruire notre vie. Ça, c'est clair. Il conduit, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Le péché étant consommé, produit quoi? La mort. Alors, c'est pas toujours la mort physique. Est-ce que ça peut être la mort physique? Est-ce qu'il y a un texte qui en parle? Comment? Ouais, Corinthiens. Regardez avec moi. Dans le texte sur la Sainte Cène, on ne le lit pas toujours forcément, mais c'est quand même intéressant de le lire. Oui, le péché, alors Dieu peut permettre la mort. Alors regardez bien, c'est important de le lire. Alors c'est 1 Corinthiens 11, si je ne me trompe pas. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, regardez, c'est dans le contexte de la Sainte Cène, lorsqu'on prend le pain, lorsqu'on prend le vin, il y a cette solennité, ce sérieux, ce pain me rappelle le corps brisé, le sang me rappelle tout ce que Jésus a versé pour nous sauver, c'est un moment important pour vous la Sainte Cène? Si ça ne l'est pas, c'est inquiétant. Alors donc, que chacun ainsi s'éprouve soi-même, et ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Regardez bien, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont... Aidez-moi. Qu'un grand nombre sont morts. Regardez bien ce que Dieu donne comme solution. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Alléluia, c'est beau quand même. Hein, c'est une grâce, ça. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Mais dites amen, mes frères et sœurs, parce qu'il y a des chrétiens que Dieu a repris, ils sont morts physiquement, ainsi ils n'ont pas été condamnés. Moi, je l'ai vu plusieurs fois, ça. Des hommes qui sont morts, parce qu'ils étaient des hommes, c'était deux hommes, qui sont morts, ils sont morts, Dieu les a repris, parce qu'ils étaient en train de tomber, et Dieu les a repris afin qu'ils ne soient pas condamnés. Je peux vous dire que c'est une grâce de Dieu. D'ailleurs, moi j'ai toujours, le jour de mon baptême, je vous assure, ça fait 35 ans, le jour de mon baptême, je me souviens avoir dit, il ne fait qu'une prière. J'ai dit, Seigneur, je te demande une chose, reprends-moi, mais que jamais je t'abandonne. Et je pense que c'est une grâce de Dieu quand Dieu reprend quelqu'un afin qu'il ne soit pas condamné avec le monde. Donc, parce que nous, la mort, on voit la mort comme une malédiction, c'est une malédiction pour les pécheurs, ça c'est clair. Mais pour les chrétiens, la mort, ce n'est pas une malédiction. Dans ce contexte-là, en tous les cas, c'est une bénédiction. Mais souvent, la mort, ce n'est pas que la mort physique. Il y a la mort, il y a des morts, le péché étant consommé produit la mort. Un homme qui trompe sa femme... Est-ce que ça n'a pas tué quelque chose dans le foyer? Oui ou non? Un homme qui ment à sa femme, ça tue, bien sûr. Ça, le mensonge, ça tue toute cette tendresse, toute cette confiance, toute la vérité. Ça détruit un foyer. Ça produit la mort. Ce n'est pas la mort du corps physique, c'est la mort de plein de choses qui devraient être en bénédiction. C'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'il faut réfléchir avant de pécher, avant de faire certaines choses. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit « Oui, mais Dieu a relevé David quand il a commis l'adultère. » J'ai dit « Ouais, mais t'as pas regardé toutes les conséquences du péché. » C'est trop facile de dire « Il s'est repenti, Dieu l'a relevé. » Moi, c'est pas ça que je regardais. Moi, ce que je vois, c'est comment il a payé cher son péché. Vous trouvez pas? Combien d'enfants il a perdu? Oui, c'est terrible. Et il faut calculer ça. Si je mens, je peux me dire « Ouais, je me suis tiré d'affaire, j'ai menti, youpi, ça a marché. » Ah ouais, vous croyez que ça va marcher? Ça va détruire quelque chose. Peut-être pas de suite, mais laissez-moi vous dire qu'on ne gagne jamais avec le péché. Le péché, il nous atteint toujours. Qui mettra du feu dans son vêtement, dans son sein, sans que ses vêtements ne se brûlent? Mais oui, il faut être sérieux. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont légers avec le péché. Et en plus, ils n'ont pas compris ce que Jésus a dû payer, lui aussi, pour nous pardonner de nos péchés. Le péché d'Adam et Ève. Le péché d'Adam et Ève, c'est... Alors, c'est la faute à qui? C'est la faute à Adam? C'est la faute à Ève? Alors, et c'est ça, parce que là, ils étaient parfaits. Est-ce qu'ils étaient parfaits, Adam et Ève? Leur environnement, est-ce que tout était parfait? Et ils ont péché. Alors, c'est Ève qui a mangé l'arbre, le fruit de l'arbre. Dieu s'est adressé à Adam. Vous avez compris pourquoi? C'est Ève qui pêche et Dieu accuse Adam. Vous avez déjà réfléchi à la situation? Comment? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que Dieu avait demandé à Adam? Tu garderas le jardin. Et qu'est-ce qui se trouve avec Ève dans le jardin? Le serpent, c'est un animal de la ferme ou c'est un animal de la forêt? Il est dans le jardin, il n'avait rien à y faire. Ça prouve que Adam n'a pas gardé le jardin. On ne va pas rentrer dans ce grand débat. Mais vous comprenez bien qu'il n'a pas exercé sa responsabilité. Et que c'est vrai qu'on doit veiller les uns sur les autres dans un couple. Oui ou non? Eh oui, c'est trop facile de dire c'est la faute à l'un, c'est la faute à l'autre. Non, Adam n'a pas gardé sa responsabilité. Il a laissé entrer dans le jardin. Vous savez, le jardin, aujourd'hui, ce n'est pas le jardin où il y a les poulets qui se promènent. Le jardin, c'est là-dedans, le jardin du cœur. Est-ce que vous laissez rentrer dans votre cœur n'importe qui, n'importe quoi? Eh oui. Et ils ont désobéi et tout a changé. Vous avez vu comment ils ont été exclus du jardin alors qu'ils étaient dans un environnement parfait. À Ève, aller connaître les douleurs de l'enfantement. Vous connaissez le chapitre. Et ainsi de suite, toute la douleur qui est venue. Voilà, ces choses étaient le résultat du péché. Est-ce qu'il y avait de la maladie dans le jardin d'Éden? Est-ce qu'ils auraient... Non, il n'y a pas de maladie. La preuve est que quand Jésus-Christ est venu, ce qu'il faisait partout où il passait, il guérissait les malades. Pour montrer que la volonté de Dieu, c'est de guérir. Vous le croyez, mes frères et sœurs? Même une étude comme celle-ci, si nous y réfléchissons au-delà de l'enseignement, ça doit nous amener à saisir la guérison du Seigneur. De toute façon, le péché, même si on croit que rien ne s'est passé, engendrera toujours de l'adversité. Écoutez bien, toujours. Et ne remettons pas en question la bonté et la fidélité de Dieu, parce qu'il y a telle ou telle conséquence par rapport à tel ou tel problème. Parce que si on veut être droit, parce que c'est ça la droiture devant Dieu, si l'on veut s'interroger, après tout on a le droit de s'interroger, c'est un peu ce qu'on fait, si l'on veut s'interroger sur la bonté du Seigneur, il faut que ça se fasse à la lumière de tout son plan, c'est-à-dire du départ jusqu'à l'arrivée. Est-ce que Dieu est bon? Est-ce que Dieu est bon? Est-ce que Dieu est puissant? Ce sont deux choses. Ce n'est pas parce qu'on est bon qu'on est puissant. Ce n'est pas parce qu'on est bon qu'on peut faire quelque chose. Dieu est bon et il est puissant. Et c'est vrai que quand on voit le départ, on se dit, mais Dieu est bon, ben, d'accord. Mais quand on voit la fin, alors on peut le lire la fin, regardez, Apocalypse 21. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible et la relire. Parce que les gens sont misérables, ils sont incapables, ils prononcent des jugements, en plus ils jugent Dieu, avec qui ils jugent l'Église, c'est pas grave. Mais les gens, ils se mettent contre Dieu, alors qu'ils n'ont pas compris le plan en entier. Apocalypse 21, vous savez, moi, il m'a fallu 5 ans d'adversité pour méditer ces choses. 5 ans. Je ne comprenais pas pourquoi pendant 5 ans et demi, j'ai vécu dans l'adversité. Eh bien, aujourd'hui, je comprends, vous voyez. Alors regardez, Apocalypse 21, versets 3 et 4. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Vous pouvez le dire, oui. Vous pouvez dire « Merci Seigneur » ou « Amen ». Mais mes frères et sœurs, un jour tout ça, ça s'achèvera. Oui, Dieu abolira la mort, les deuils, les pleurs, la douleur, la tristesse. Pourquoi? Parce qu'il est bon et parce qu'il est fidèle et surtout parce qu'il est puissant pour le faire. Il faut pas parler que de la bonté de Dieu, c'est merveilleux la bonté de Dieu. Mais il a la puissance de le faire et il le fera. C'est vrai que c'est compliqué l'adversité, mais il faut accepter que Dieu peut permettre l'adversité, que l'adversité peut venir de notre propre péché, parfois ça vient du péché des autres, alors ça c'est un autre sujet qu'on abordera dans une autre prédication, parce qu'on peut souffrir à cause de son péché, mais on peut souffrir à cause du péché de quelqu'un. Dans un foyer, un homme qui boit par exemple, est-ce que la femme peut souffrir à cause du péché de son mari? Non? Et voilà, donc, bon, mais ça c'est un autre sujet, c'est trop compliqué pour l'introduire ce soir dans la réunion. On l'abordera dans une autre réunion sur l'adversité, parce que c'est quand même une autre forme de souffrance. La troisième source, bien sûr, ça, c'est évident, tout le monde pourrait répondre, c'est la personne même de l'adversaire, Satan lui-même. Bien sûr que Adam et Ève ont péché, mais qui c'était derrière, qui a poussé à la roue, qui c'était? C'est le serpent, qui était là dans le jardin d'Éden, bien sûr. Adam aurait dû veiller sur le jardin. C'est pour ça, mes frères et sœurs, veillons. Vous savez, quand on regarde certains trucs, moi je ne sais pas, sur Internet, il y a tellement de trucs, la télé, les portables, Internet, la télévision, tout ça. C'est exactement la même chose. On peut laisser rentrer le serpent dans notre jardin. Et après, ça ne va pas être facile. Alors, il vaut mieux le garder, le jardin, croyez-moi. L'exemple de Job. Vous connaissez tous l'exemple de Job. Qui ne connaît pas le livre de Job? Comment expliquer toute cette adversité? Moi, le livre de Job, je l'ai lu plusieurs fois, et pendant un moment, j'ai arrêté de le lire, parce que je me suis dit, à la place de répondre à questions, ça faisait que soulever des questions. Je pensais avoir des réponses, et quand j'ai lu le livre, je me suis dit, tu as 300 questions à poser au Seigneur. Bon, j'ai arrêté de lire, puis après j'ai repris. Il y a des gens, alors il y en a qui ont dit, oui, Job, s'il a connu ça, c'est clair. Il y a des gens, ils ne lisent pas. Ouais, c'était un orgueilleux. Il était riche, c'était un gars qui était plein d'argent, c'était un orgueilleux. Alors, on a un peu de temps, oui. Regardez, on va le lire. C'est pour vous dire que même il y a des pasteurs, c'est pas possible. Ils ne doivent pas le lire. Ils ne doivent pas lire, c'est pas possible. Regardez. C'est quand même, parce que c'est quand même écrit dès le départ du livre. Il y a des fois, c'est un peu caché dans le milieu du livre, mais là, dès le départ, ça prête aucune confusion. Il ne peut pas y avoir un doute, un seul doute. Job, chapitre 1er. C'est pour ça qu'il faut lire. Vous voyez la personne qui me disait dimanche, oui, mais comment vous savez que la construction de l'arche a duré 100 ans mais vous avez trouvé ça ouf. Ouais. Job chapitre 1er, verset 1er. Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était comment? Orgueilleux et fourbe. Comment il était cet homme? Il était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Et pour qu'on comprenne bien, au verset 8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » J'en profite pour vous dire, si vous voulez savoir ce que c'est l'intégrité, c'est se détourner du mal. La crainte de Dieu, c'est de se détourner du mal. Voilà, il y a déjà, mais c'est quoi l'intégrité, Monsieur Gau? L'intégrité, je me détourne du mal. Voilà à quoi on reconnaît quelqu'un d'intègre. Donc, c'est clair. Job n'était pas un orgueilleux, vous êtes d'accord avec moi? Il était intègre et droit. Ce n'est pas à cause du péché que Job a connu l'adversité. Il n'y a aucun doute, là, c'est même pas la peine de réfléchir. Et pourtant, Satan a cherché à tout détruire. Et il était à l'origine de cette adversité. Parce qu'en fin de compte, on peut se poser la question, mais qui a permis, qui a... Ça vient de qui l'adversité dans la vie de Paul? Job, pardon. Merci. Il y en a deux qui écoutent. Ça vient de qui? Ça vient de Satan ou ça vient de Dieu? Alors l'intention, c'est Satan qui la provoque, mais l'autorisation, oui ou non, vous le voyez comme moi, l'autorisation, c'est quand même Dieu qui la donne. Hein. C'est vrai que c'est dur à avaler un peu. Oui ou non? Vous le voyez comme moi? Bon, non, parce que c'est quand même important. Dieu peut permettre... Bon, vous savez, quand je suis rentré de Tahiti, mais je vous assure, quand je suis rentré de Tahiti, je parlais avec monsieur de Dieu, je m'appelle, et monsieur Christian. Et on parlait, parce que c'est vrai que ça avait été dur, vraiment très dur. Et ils m'ont dit, mais vous savez d'où ça vient l'adversité que vous avez traversée? Ils m'ont mis la puce à l'oreille. Vous avez demandé au Seigneur? Ah non, je ne peux pas demander. Je me suis posé plein de questions, comme ceux que je partage avec vous, mais j'ai dit, tiens, pourquoi, c'est vrai, pourquoi Dieu a permis l'adversité? Et justement, j'étais en train de lire à l'époque le livre des chroniques. On va le lire, vous allez voir. Je lisais le livre des chroniques, et le matin, j'ai prié, puisque les frères m'avaient dit, tiens, vous avez demandé à Dieu? Non, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu as permis ça dans ma vie? Alors, je lisais un chronique ou deux. Alors, attendez... Deux chroniques 32, verset 31. Je lisais, parce que je lis mécaniquement, si vous voulez. Je lis plein de livres en même temps, mais je lis la Bible de A à Z, pour avoir une connaissance continuelle. Deux chroniques, ce matin-là, je lisais, deux chroniques 32. Et quand je suis arrivé à la fin du verset 31, vous voyez, c'est bizarre, hein, mais c'était ça, Dieu me répondait. Au bout de 6 ans et demi, parce que l'épreuve avait duré 5 ans et demi, mais là, ça faisait 1 an qu'elle était terminée, j'arrivais à Saint-Agne, dans cette grâce de Dieu de travailler avec vous. Et voilà, je lisais, regardez la fin du verset 31. Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Et j'ai dit, Seigneur, voilà, j'ai la réponse. Tu m'as répondu. J'ai pleuré un bon coup, ça m'a fait du bien. Est-ce que Dieu peut permettre des épreuves comme ça? Alors abandonner? Est-ce que Dieu peut nous abandonner définitivement? Non, mais c'est exactement comme une maman. Vous savez, une maman, quand son gosse commence à marcher, elle va le laisser partir. Vous avez déjà vu une maman qui commence à laisser son petit enfant partir? Qu'est-ce qui va arriver? C'est quand il commence à marcher. Vous savez comment ça se passe? Il va se casser la figure, il va accrocher, il va tomber. C'est un peu ça. Il nous abandonne, le Seigneur, mais on est toujours à sa vue, à portée de sa vue. Mais moi, franchement, c'est les frères là qui me demandent, vous n'avez pas? Non. Et le lendemain, je dis, Seigneur, mais pourquoi? Et aujourd'hui, vous savez, quand je vois quelqu'un dans mon bureau qui pleure, Monsieur Gau, si j'avais pardonné, je ne pleurerais pas. Alors j'ai dit, je peux vous dire qu'on peut pardonner. On peut avoir pardonné et pleurer quand même. Oui, c'est des clichés, ça. Si tu avais pardonné, tu ne pleurerais plus. C'est des bêtises, ça, c'est pas vrai. Est-ce que la douleur peut revenir parfois? Ben, bien sûr. Moi, si je vous parle de Tahiti pendant une heure, je risque de pleurer. Et pourtant, je peux vous dire que je pardonne et j'ai béni Dieu. Mais parce qu'il y a des choses, quand ça remonte les souvenirs, des fois, c'est pas. Et puis, c'est pas grave de pleurer. Est-ce que c'est bien de pleurer des fois? Ben oui. Mais voyez comment on est bête. On est bête. Voyez, on va dire que ne pleure pas. Si c'est Dieu qui vous dit ne pleure pas, c'est très bien. Mais des fois, ça fait du bien de pleurer. Il y a un temps pour rire, et il y a un temps pour pleurer. Alors, on va terminer avec ce passage de l'apôtre Pierre, qui est, je crois, une bonne conclusion pour cette introduction. Alors, c'est vrai que moi, je vous ai dit qu'on allait étudier le comportement du chrétien, mais quand même, je pense que dans l'Église, plusieurs ont besoin d'apprendre vraiment sur l'adversité. On le verra. Alors, c'est un sujet un peu compliqué, un peu long, je ne sais pas comment on le fera, on va laisser le Saint-Esprit nous conduire. Dans 1 Pierre au chapitre 5, Pierre parle de l'adversité, mais regardez comment il en parle. Et ça, je bénirai toute ma vie le pasteur M. Ollet pour la façon dont il m'a aidé à tenir compte des contextes. Jamais, jamais je remercierai assez ce frère, et je vous encourage, il n'est pas là, ça tombe bien, à vous abonner à sa revue. Vous savez, sa petite revue, là, Le Serviteur de Dieu. En plus, c'est ridicule, parce qu'on paye ça 8 euros par an. Et je vous assure, on a l'impression, mais je vous assure, c'est du steak concentré. Et c'est, vous savez, ça fait 33 ans que je prêche. Et il a fallu que l'enseignement de M. Ollet me permette de vous expliquer des choses comme je le fais ce soir. Regardez, vous allez comprendre ce que je vais vous dire. L'apôtre Pierre dit ceci, 1 Pierre au chapitre 5, versets 8 et 9. C'est des versets, je vous le rappelle, notez-les et méditez-les pour comprendre. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, ça dit bien son nom, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, l'adversité produit quelque chose. C'est de la souffrance. Il faut chercher le contexte. La souffrance. Le diable, lui, l'adversité en vérité, il s'en fiche. Ce que le diable veut, c'est qu'on souffre. Vous me suivez? C'est ça, comprendre un contexte. Car bien souvent, qu'est-ce qu'elle fait la souffrance? Qu'est-ce qu'elle peut faire la souffrance dans la vie d'un chrétien? Détruire la foi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et on a vu plein de chrétiens abandonner Dieu. Et vous, c'est ça. C'est pour ça que l'enseignement. Mais c'est pour ça que, bien sûr, si vous lisez les trucs de M. Ollet en 2 minutes, il faut méditer. La Bible dit heureux l'homme qui médite. Moi, je vous assure, c'est comme ça que j'ai compris. Ce que le diable veut, c'est nous faire souffrir. Parce que, je le répète, la souffrance peut détruire notre foi. Et quand on comprend l'adversité, on ne focalise pas sur la souffrance, on travaille sur la réaction. Quelle est ma réaction? Est-ce que cette adversité provoque une bonne réaction? Ou est-ce que cette adversité est en train de m'éloigner de Dieu ou de détruire la foi? Pour certains, l'adversité, ça détruit la foi. Pour certains, l'adversité, ça fortifie la foi. Et ils peuvent chanter plus que vainqueur. Bon, parce que c'est quand même des cantiques formidables, ça. Pas vainqueur. Paul ne parle pas d'être vainqueur. Vainqueur, c'est bien. Il dit plus que vainqueur. Ça vous intéresse d'être plus que vainqueur? Mais c'est la volonté de Dieu. Et pas du cinéma, pas de l'hypocrisie, là, des Alléluia et je t'aime mon frère. Non, c'est quelque chose que l'on vit vraiment. Alors qu'est-ce que je dois faire? Vous savez, moi, mais je vous le dis parce que j'ai pleuré. Si vous saviez ce que vous savez, j'ai passé une partie de la nuit à réfléchir à ces choses, hier toute la journée, parce que je voudrais que nous vivions dans cette grâce. Comment je vais réagir? Comment je vais réagir? Est-ce que je vais me laisser vaincre par le mal? Parce que des souffrances, il y en a. Qui n'a pas souffert? Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Votre témoignage m'intéresse. Qui n'a jamais souffert? On a tout souffert. Tout souffert. Ne vous laissez pas vaincre par le mal. Surmontez le mal par le bien. C'est écrit. Oui, c'est écrit. Romains 12, 21. Alors, l'adversité. Je termine. On va chanter « Mon Dieu plus près de toi ». D'accord? Parce que c'est un texte qui nous parle de souffrance. En terminant cette étude ce matin, je pensais aux disciples, à toutes ces femmes, à tous ces hommes, aux apôtres, quand Jésus était en train de mourir sur la croix. Vous ne croyez pas qu'il devait y avoir de l'adversité là? Et des questions. Est-ce que, bon, on le sait, nous, qu'il est ressuscité. Mais imaginez-vous, ces femmes qui avaient suivi Jésus, qui avaient vu tout ce qu'il a fait, ses mains qui avaient béni des milliers de gens. Ces mains qui avaient guéri, ressuscité des morts, ces mains qui avaient touché des enfants, elles étaient là crucifiées. Et je peux vous dire que ça devait dire, mais pourquoi tout ça? Les apôtres, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? C'est un échec, c'est pas possible. Pourquoi Dieu a permis cela? Quand même, c'était le Fils de Dieu. En plus, les Juifs avaient été enseignés dans la loi que celui qui était pendu sur le bois, il était maudit. Pourquoi Jésus a été maudit par Dieu? 3 jours après, ils ont eu l'explication. Oui ou non? 3 jours après. Je pense que ça devait s'être éclairci. Ça devait courir joyeusement dans les rues de Jérusalem. Ouais. Mes frères et sœurs, si nous passons, là, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si nous passons la moitié de notre temps à nous poser des questions par rapport à ce que nous vivons, on ne fera aucun progrès. Vous comprenez? Le Seigneur, il est tout puissant. Il règne au siècle des siècles. Alors, une question juste pour terminer. Les derniers problèmes que vous avez rencontrés, répondez-vous à vous-même pour vous aider à méditer ce travail. Les derniers problèmes que vous avez traversés ont-ils fortifié votre foi ou affaibli votre foi? Voilà, vous devez pouvoir répondre. Vous avez eu un problème il y a 15 jours, il y a un mois. Qu'est-ce que ça a fait? Ça vous a fortifié ou ça vous a affaibli? Voilà, là vous avez la réponse. Est-ce qu'on peut répondre en chantant ce cantique? On va chanter « Mon Dieu plus près de toi ». Vous voulez qu'on le chante? Est-ce que c'est votre prière?
Mon Dieu plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Seigneur, plus près de toi, tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, près de toi dans le désert. Amen.